Géopolitique, Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Des femmes qui ôtent leur voile, le font virevolter, le brûlent en public. Des jeunes filles, cheveux au vent et poings levés dans les rues pour hurler leur haine d'un régime qui les opprime et les oblige à porter le hijab. Des lycéennes, têtes nues, qui osent faire un doigt d'honneur devant le portrait du guide suprême, l'ayatollah Khamenei. D'autres qui se coupent des mèches de cheveux et postent la vidéo sur les réseaux sociaux. Depuis 5 semaines, une vague de contestations inédites avec les femmes en première ligne secoue l'Iran. C'est la mort le 16 septembre d'une jeune kurde de 22 ans qui a tout déclenché. Mahsa Amini avait été arrêtée 3 jours plus tôt par la police des mœurs pour avoir mal ajusté son voile. Elle est devenue une icône. Le pouvoir a choisi de répondre à la fronde par une féroce répression. Les ONG parlent de quelques 200 morts et de centaines de personnes arrêtées. À quoi aspirent les Iraniens et les Iraniennes? Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour obtenir un changement de régime? Le guide suprême Ali Khamenei est-il capable de lâcher du lest? Existe-t-il des dissensions au sein des forces armées sur la politique de répression en cours? Le régime théocratique en place à Téhéran depuis 1979 est-il en sursis? On en débat avec nos invités. Azadeh Kian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sociologie et directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes à l'Université Paris-Cité. Vous avez publié « Femmes et pouvoir en islam » aux éditions Michalon en 2019. Delphine Minoui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste correspondante du Figaro à Istanbul. Vous avez été en poste en Iran de 1997 à 2009 et vous en avez tiré un très beau livre, Je vous écris de Téhéran, publié au Seuil en 2015. Clément Terme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et chargé de cours à l'université Paul Valéry de Montpellier. Vous avez dirigé « L'Iran et ses rivaux entre nations et révolutions », ouvrage collectif paru en 2020 aux éditions Passé Composé. Et je précise que cette émission a été enregistrée le 20 octobre. Femme, vie, liberté, le slogan des femmes iraniennes depuis le 16 septembre. Doit-on parler de révolte, de révolution, ou est-ce qu'il est encore trop tôt pour se prononcer, Clément Terme?
Alors oui, c'est un épisode révolutionnaire, mais certains disent que c'est simplement un soulèvement et qu'on est toujours dans le cycle de manifestations et de répression. Donc il y a plusieurs grilles de lecture possibles, mais ce qui est sûr, c'est que le régime n'a pas de solution politique et donc il ne peut pas régler les problèmes de la population. Qu'il s'agisse de la quête pour le droit des femmes, d'égalité, qu'il s'agisse des problèmes économiques, de la situation internationale du pays, le régime a montré qu'il n'était pas capable, en fait, de défendre les intérêts nationaux. C'est pourquoi j'avais ce sous-titre dans le livre, « Entre nation et révolution », parce que finalement, la révolution de 1979, le régime révolutionnaire de la République islamique, s'est avéré incapable de protéger le pays face aux menaces internationales et d'assurer le bien-être de la population.
Azadeh Kian, il y a déjà eu effectivement des révoltes depuis la révolution islamique de 1979. En quoi le mouvement actuel est-il inédit selon vous ?
Déjà la présence des femmes qui ont initié ce mouvement et qui pour moi est devenue une révolution en cours. Les revendications se sont étendues. On n'est plus seulement dans le slogan contre le voile obligatoire, mais tout un tas d'autres revendications qui existaient déjà depuis au moins décembre 2017. Et on constate que les couches populaires se sont jointes à ce mouvement, mais également les enseignants, les professeurs, les étudiants, bien évidemment, des universités, mais aussi des ouvriers. Maintenant, vous avez de plus en plus d'ouvriers de l'industrie pétrochimique, du sucre, par exemple, de Haftapé, qui ont fait grève. Il y a des conseils, il n'y a pas de syndicats autonomes, mais il y a des conseils autonomes qui travaillent ensemble et donc qui tentent d'organiser le mouvement. La différence est qu'aujourd'hui, vous avez des pans entiers de la population mécontents et dans la rue pour une partie, mais en même temps, beaucoup de jeunes et surtout jeunes femmes qui sont les porte-étendards de ce mouvement.
Delphine Minoui, cette révolte, c'est avant tout celle de la jeunesse. On a même vu des écolières se mobiliser. Qu'est-ce qu'elle revendique, cette jeunesse? Pourquoi est-ce qu'elle n'en peut plus?
Cette jeunesse, elle est très marquante parce que c'est vraiment une nouvelle génération qu'on pensait apolitique, qu'on pensait complètement déconnectée de ce qui se passe dans son pays, puisque c'est une jeunesse qui a grandi dans le carcan religieux, mais qui s'est continuellement nourrie du monde extérieur à travers les réseaux sociaux, à travers les comptes Instagram, TikTok et tout ce que vous pouvez imaginer. Et ces jeunes, en fait, on s'en rend compte, ils sont finalement très très bien informés. Ils ont tous été complètement choqués par ce qui s'est passé avec Mahsa Amini, mais aussi par la mort d'autres jeunes, parce qu'aujourd'hui, ce mouvement révolutionnaire n'est pas cantonné juste contre la mort de cette jeune femme, mais il y a eu d'autres symboles qui sont tombés. Je pense à la jeune Nika Shakarami qui n'avait que 16 ans, une autre fille, Sarina Ismailzadeh. Donc toutes ces filles, finalement, elles disent « nous sommes toutes comme elles ». Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que ce mouvement n'est pas cantonné au grand centre urbain, il est largement dispersé à travers le pays. L'autre jour, une amie m'envoyait une banderole qu'elle avait prise en photo dans la ville sainte de Côme, où il était écrit « Chère Nika », donc à l'attention d'une des jeunes martyrs, entre guillemets, « la voie que tu as tracée se poursuit ». On sent qu'aujourd'hui, vraiment, le mur de la peur est tombé et que ces jeunes, au prix de leur vie, sortent dans la rue, brûlent leur foulard, déchirent en confetti le portrait de l'ayatollah Khomeini. On sent qu'il y a une sorte de tournant. Il y a quelque chose qui est en train de se briser aujourd'hui.
Clément Terme, le fait que les hommes, ou du moins beaucoup d'hommes de la jeune génération, aient tout de suite soutenu ces femmes qui ont le courage d'enlever leur voile en public, c'est nouveau ça aussi ?
Alors, parmi les jeunes, les hommes sont aussi des victimes de cette ségrégation sexuelle, de l'apartheid sexuel imposé par la République islamique. Donc, il n'est pas surprenant qu'ils demandent aussi la liberté, parce que la liberté des femmes est aussi la leur. Donc, je ne suis pas surpris. Ce qui est nouveau, c'est que, je pense, les élites, notamment les sportifs, les célébrités, ont rejoint les classes populaires. Donc, c'est vraiment le premier mouvement qui fait l'unanimité dans toutes les classes sociales et dans tous les milieux culturels. Donc, il y a vraiment un mouvement pour ce que j'avais appelé un nationalisme par le bas. Donc, une volonté de se débarrasser de ce régime. Et on ne croit plus dans la réforme, donc une évolution progressive dans le cadre de la République islamique. Parce que, bien sûr, le régime a tenté de lancer un dialogue, de récupérer le mouvement, mais ce qu'on appelle entre guillemets les réformistes ne servent plus, si vous voulez, de courroie de transmission entre le système politique et la majorité de l'opinion publique. Donc la rupture est consommée, je dirais.
Clément Terme, vous parliez à l'instant des sportifs. On a vu dans la nuit de mardi à mercredi la grimpeuse iranienne Elnaz Rekabi qui avait participé dimanche dernier à une compétition en Corée du Sud sans voile. On l'a vu donc rentrer à Téhéran, accueillie à l'aéroport par des centaines de personnes venues l'applaudir pour son geste. Mais dès qu'elle a posé le pied sur le sol iranien, Elnaz Rekabi, qui portait une casquette et un foulard qui cachait ses cheveux, a déclaré dans une interview à la télévision d'État iranienne qu'elle avait simplement oublié de porter son voile par négligence et qu'il ne s'agissait pas d'un acte intentionnel. Est-ce que vous pensez que la jeune athlète a été recadrée pendant les deux jours où elle avait mystérieusement disparu à Séoul ?
Elle est en lutte pour sa survie, c'est-à-dire qu'elle a ses convictions qu'elle a exprimées quand elle était libre, c'est-à-dire à l'extérieur de l'Iran. Mais en revenant, ils ont fait pression sur sa famille, donc elle est prise en charge et c'est une récupération par le régime. Mais le régime ne peut pas susciter l'adhésion, c'est ça que je voulais dire. Il peut essayer de manipuler des cas individuels, mais au final, je pense que le combat pour la liberté sera gagné parce que on peut pas demander à une athlète comme cette spécialiste de l'escalade, de choisir entre son statut de femme libre et soit d'aimer son pays. Donc c'est un peu cette tentative de récupération par la République islamique d'un combat individuel qui va perdurer malgré ces stratégies du régime.
Vous écoutez Géopolitique.
Cette jeunesse iranienne, comme partout, on l'a dit, est ultra connectée. Azadeh Khan, quel rôle jouent les réseaux sociaux dans la visibilité du mouvement de révolte ?
Écoutez, pour l'instant, vous savez que Internet est coupé. Il est très difficile maintenant, à la fois pour les gens qui manifestent, de se tenir au courant, mais aussi à nous de recevoir en temps réel des vidéos, contrairement au passé. Mais en tout cas, les réseaux sociaux ont joué, on le sait, un rôle prépondérant déjà dans la construction identitaire de cette jeune, toute jeune génération, si vous voulez, d'une part, parce qu'on sait qu'ils et elles sont très ouverts sur le monde, malgré les efforts du régime islamique de les encadrer idéologiquement, grâce justement aux réseaux sociaux, à Internet, aussi aux antennes paraboliques. Et aujourd'hui, néanmoins, la coupure d'Internet, malgré les VPN que les gens achètent pour essayer de contourner la coupure, fait qu'il y a aussi 400 000 personnes qui travaillent grâce à Internet, qui sont en train de faire faillite. Hein. Il faut pas les oublier non plus. En tout cas, Internet a joué un rôle prépondérant depuis de nombreuses années. 70% de la population iranienne a accès à Internet, donc avant les événements, je veux dire, ce qui est un taux de pénétration très, très important. Si on se rappelle que l'Iran a 83 millions d'habitants. Et donc, c'est l'une des statistiques les plus élevées au Moyen-Orient. Je voudrais, si vous permettez, aussi ajouter, les chiffres que vous avez donnés pour les tués. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux régions, à savoir le Baloutchistan, où il y a plus de 95 tués, et également le Kurdistan, qui sont les deux régions habitées par les minorités à la fois ethniques, mais aussi religieuses, c'est-à-dire c'est des sunnites en majorité écrasante, qui ont protesté et qui ont été tués. Mahsa Amini elle-même était kurde, donc ça a commencé dans sa ville natale, Sarrez, au Kurdistan iranien, et la répression continue, mais les mobilisations aussi. Donc effectivement, comme on l'a dit précédemment, il y a de nombreuses régions en Iran qui sont concernées par ce soulèvement contre l'ensemble du régime islamique.
Vous parliez, Azadeh, des VPN, les réseaux privés virtuels qui permettent de contourner les restrictions imposées sur Internet. Les autorités iraniennes s'apprêtent à criminaliser la vente des VPN. Clément Terme, c'est un cran de plus dans la volonté d'étouffer toute voix dissidente. Et est-ce que c'est aussi un signe que finalement le mouvement fait peur au régime ?
Oui, mais il faut préciser tout de suite que le régime est corrompu. Donc il y a des enfants de dirigeants qui ont des compagnies de VPN qu'ils exploitent, qu'ils développent. Donc c'est un business extrêmement lucratif. Donc comme toujours dans un régime de type république islamique, à la fois autoritaire avec une dimension idéologique, c'est un conflit entre cette ambition de contrôler la population et de réguler le corps social et l'appât du gain. Donc il y aura aussi des failles dans ce système de répression. Et ce n'est pas parce que des lois sont passées que sur le terrain, dans les faits, on ne parviendra pas à contourner la censure. Ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment perçu comme une menace. Les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, ont été déployés à Téhéran. Donc il y a vraiment la volonté de faire régner la terreur, que ce soit dans l'espace virtuel ou dans l'espace public, pour décourager que le calcul du manifestant entre son risque et sa volonté de réaliser son idéal penche à faveur de l'instinct de survie et de la volonté de ne pas prendre de risques. Donc, mais je ne pense pas qu'il puisse complètement résorber à la fois les manifestations dans l'espace public. On a vu déjà depuis plusieurs années que le régime ne parvenait pas à éteindre, malgré en 2019, il y avait déjà eu 1500 morts. Et donc on voit que quelques mois plus tard, les manifestations s'amplifient. Et ensuite, sur le plan de la régulation d'Internet, l'objectif d'avoir un Internet national qu'on appelle halal est très ancien depuis Ahmadinejad et fonctionne très mal. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un apartheid numérique, c'est-à-dire que ceux qui sont à l'intérieur du régime ont accès à l'Internet grande vitesse, et quand l'Internet est coupé pour la population, il ne l'est pas pour les partisans du régime.
Delphine Minoui, vous avez vécu en Iran de 1997 à 2009. Le régime théocratique, dès son arrivée au pouvoir, a restreint la liberté et les droits des femmes. Mais paradoxalement, les filles sont aujourd'hui plus nombreuses que les garçons à l'université. Comment vous expliquez ce paradoxe ?
Il se trouve que finalement, en imposant le voile à toute la société, les autorités ont permis aux familles traditionnelles d'encourager leurs filles à aller sur les bancs des universités, dans les amphithéâtres. Et ces jeunes filles qui, à l'époque, étaient des filles pieuses, qui respectaient les règles en vigueur, les règles édictées à la maison, les règles édictées par le pouvoir, à partir du moment où elles ont eu accès au savoir, elles ont commencé à s'émanciper. participer. Et pas mal de mes amis, je les ai vus changer au fil des années quand j'habitais à Téhéran. C'était des filles assez réservées qui respectaient les normes en vigueur. Mais au fil du temps, elles ont commencé à troquer leur voile noire contre des foulards colorés. Elles ont commencé à s'intéresser aux mouvements sociaux, à lire des ouvrages occidentaux, à lire Simone de Beauvoir, Hannah Arendt. Il faut savoir qu'en Iran, c'est aussi un des paradoxes, comme il n'y a pas de copyrights, vous avez accès à une multitude, une pléthore de littérature venant de l'Occident. Et du coup, de facto, eh bien, il y a eu un changement interne à la société qui a poussé ces femmes à s'émanciper et à devenir de plus en plus à la fois éduquées et ouvertes sur le monde.
Et ces femmes, elles ont réussi à faire de la résistance en coulisses, de la résistance face au patriarcat ?
Oui, une résistance en coulisses et également progressivement sur la scène publique à laquelle on a pu assister à travers, je me souviens à l'époque, tous ces mouvements de femmes pour pouvoir accéder au stade de foot, puisque les matchs sont interdits officiellement aux femmes. Il y a eu aussi tout ce mouvement organisé par de jeunes activistes à l'époque, au début des années 2000, qui s'appelait la pétition pour obtenir 1 million de signatures pour la parité entre les hommes et les femmes. Il s'agissait de faire du porte-à-porte dans les villages pour encourager les femmes à avoir une meilleure conscience de leurs droits, récolter des signatures et les déposer sur le bureau du Parlement iranien. Il y a eu, je me souviens dans les années 90 mais également 2000, une pléthore de magazines réformistes dont certains consacrés seulement aux femmes. Je pense au magazine Zanon qui veut dire les femmes. Je pense au quotidien Zan qui avait été lancé par Faizeh Hashemi, la fille de l'ex-président Rafsanjani. Donc finalement, les femmes n'ont jamais cessé de militer, de s'organiser, de faire, je dirais, leur propre révolution discrètement, derrière les murs, de façon plus invisible. Et aujourd'hui, je pense que c'est le résultat de tout ça qui devient visible sur la scène publique en Iran.
Azadekian, vous êtes d'accord, la société est devenue de moins en moins conservatrice grâce aux femmes qui, Delphine l'expliquait à l'instant, ont résisté à la volonté du pouvoir de les maintenir enfermées.
Tout à fait, mais aussi, c'est un autre paradoxe, c'est que depuis le début de la révolution, il y a eu des écoles partout dans les villages. J'ai fait beaucoup d'enquêtes dans les villages les plus reculés de l'Iran et il y avait toujours une école et donc les petits et les petites allaient à l'école. D'ailleurs, ensemble, il n'y avait pas de ségrégation sexuelle dans les villages parce qu'il n'y avait pas assez d'enseignants et d'enseignantes pour ces petits. Et donc, ce qui fait qu'après, effectivement, ils avaient envie de continuer. Si la pauvreté n'était pas très grande, de pauvreté des parents, il y avait par exemple qui même continuait jusqu'à l'université. Effectivement, ça a beaucoup changé à la fois la mentalité des parents, mais en même temps, les enfants éduqués des parents analphabètes ont acquis une autorité très importante, de sorte que lors des élections, je me rappelle, par exemple de Khatami, 97 jusqu'en 2005, c'était ces jeunes gens alphabétisés, éduqués, qui disaient même à leurs parents pour qu'ils voter, c'est-à-dire qu'ils avaient obtenu un statut vraiment d'autorité au sein même de leur famille et donc ils ont voulu continuer. Notre enquête nationale montre aussi que l'éducation des parents a beaucoup changé. Par exemple, on ne frappe plus les enfants, on essaye de discuter avec et donc du coup ça donne des jeunes au final dont les avis et l'opinion sont respectés par les parents et donc quand ils grandissent et ils vont en plus de ça au lycée ou à l'université, souhaiteraient que le pouvoir politique aussi prenne en compte leur avis. Malheureusement, il y a un mur, ce qui fait que le patriarcat privé dans les familles a été beaucoup affaibli ces dernières décennies. En revanche, on est face à un patriarcat politique en la personne de Khamenei, le guide, et de l'ensemble des institutions du régime islamique. Et raison pour laquelle ces institutions et le guide à leur tête sont très contestées par ces enfants et par ces jeunes qui ont appris à être respectés par les membres de leur famille et donc, comme on l'a dit auparavant, grâce aussi aux réseaux sociaux, être ouverts sur le monde. Donc ces tensions expliquent en bonne partie ce qui se passe aujourd'hui en Iran, bien sûr.
Azadekian, Delphine Minoui, Clément Terme, on va se quitter le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes.
Géopolitique.
Chantal Laureau.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Avec pour slogan « Femmes, vie, liberté », c'est un mouvement de révolte inédit qui secoue l'Iran depuis la mort en détention le 16 septembre d'une jeune kurde de 22 ans, Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile. Cette vague de colère peut-elle faire vaciller le pouvoir? Existe-t-il des dissensions au sein des forces armées sur la politique de répression en cours? Le régime théocratique est-il en sursis? On continue d'en débattre avec trois spécialistes de l'Iran, la sociologue Azadeh Kian, la journaliste Delphine Minoui et le chercheur Clément Terme. Clément Terme, on entend depuis 5 semaines des slogans très violents, mort à la dictature, mort au dictateur. Le guide suprême Ali Khamenei est directement visé. Un groupe de hackers a même réussi à pirater en direct un journal de la télévision d'État iranienne en diffusant une image d'Ali Khamenei en train de brûler dans les flammes. Quelle est aujourd'hui la légitimité du régime théocratique? Qui le soutient encore?
Alors le régime a perdu sa capacité à garder les mécontentements à l'intérieur du système, parce que depuis le mouvement vert de 2009 et même avant, dès 1999, le mouvement étudiant a décrédibilisé déjà Khatami, à l'époque celui qu'on appelait modéré. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la majorité de la population a perdu l'espoir dans une évolution pacifique dans le cadre de ce régime, parce que le dialogue était un moyen de diversion, de manipulation du pouvoir. Et par conséquent, les revendications sont devenues, surtout à partir du milieu des années 2010, donc notamment en 2017-2018, pour un changement de régime, parce que il n'y a pas de solution, il n'y a pas de parti politique qui place la laïcité au cœur de son programme. Donc on est dans un régime qui est fermé. Alors même s'il y avait des mouvements modérés, une tentative de faire de la communication sur le droit des femmes en nommant une ministre femme ou une vice-présidente. Donc il y avait une stratégie du régime effectivement pour coopter ses mécontentements et faire accepter sa politique. En fait, le dialogue n'a jamais été dans deux directions. C'était simplement un moyen pour le régime de contrôler les mécontentements, et par conséquent on aboutit à cette demande maintenant par le bas, interne à l'Iran, de changement de régime. Le régime est très fragilisé. Son principal argument, c'est moi ou le chaos, de jouer sur la peur de l'incertitude. Donc ça, c'est valable pour une partie, notamment des classes les plus favorisées en Iran, qui ont peur pour leur statut économique. Mais c'est valable également pour les chancelleries occidentales, qui ont peur du changement de régime et qui associent cette idée avec la violence, la guerre. Donc on a beaucoup de comparaisons avec la Syrie, par exemple. Mais je pense que ce mouvement va perdurer parce que c'est un problème qui se pose depuis l'instauration de la République islamique. Donc on est sur la longue durée. Le régime n'a jamais réussi, hein, même dans les années 90, quand entre guillemets les modérés étaient au pouvoir, à incarner le nationalisme iranien. Donc il y a vraiment des déficits de légitimité qui sont anciens. Donc ce mouvement agit comme un révélateur de ses faiblesses, et il n'y a pas de solution parce que les autorités de l'État, donc le guide suprême, les gardiens de la révolution, pensent que réformer en position de faiblesse, c'est accélérer la chute du régime, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Et donc, on est dans une surenchère sécuritaire qui elle-même produit des mécontentements.
Azadeh Kian, est-ce que les vidéos des manifestations, de la répression qui circulent dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux et qui donnent une image détestable de l'Iran, gênent le régime ou est-ce qu'ils s'en moquent éperdument?
Non, ils ne peuvent pas s'en moquer perdument. Et d'ailleurs, ça donne effectivement une image réelle de ce régime qui est répressif, hein, qui n'a pas hésité de tirer à balles réelles sur des enfants. C'est des petits qui ont été tués. Il y a au moins une trentaine jusqu'à aujourd'hui qui ont été tués, âgés de quelques mois à 13, 14 ans, 15 ans. Le monde entier voit ces images et comprend à qui les Iraniens ont affaire, si vous voulez. Donc après, bien sûr, des questions se posent de savoir comment négocier, par exemple, sur la question de nucléaire avec un régime qui tue les enfants, par exemple. Clément Terme a parlé du nationalisme à ma entreprise. Mais quel nationalisme? Parce qu'il ne faut pas oublier que les Kurdes ou les Baloutches ou les autres minorités ethniques religieuses qui sont très impliquées dans ce mouvement sont vraiment écartées du nationalisme iranien en tant qu'idéologie telle qu'il a été conçu déjà depuis le 19e siècle. Et donc, c'est pas ce nationalisme que les gens revendiquent. Les gens revendiquent un nationalisme inclusif, un nationalisme qui comprend en son sein pas seulement les chiites ou les perses, mais également l'ensemble des ethnies et des religions qui font l'Iran. Donc, faut savoir de quoi on parle, parce que le régime à maintes reprises aussi donne même à l'heure actuelle des slogans du type nationaliste en disant si on laisse les Kurdes faire, si on laisse les Baloches faire, ils veulent s'en aller de l'Iran et ils veulent se séparer de l'Iran. Donc, on est là pour les en empêcher. Vous voyez, c'est-à-dire que les slogans du type nationaliste sont aussi utilisés par le régime pour réprimer les revendications des Kurdes ou des Baloches qui ne demandent qu'être traités au même titre que les autres Iraniens, par ailleurs, qui peuvent être chiites ou perses, par exemple.
Delphine Minoui, on a vu des vidéos montrant des policiers marcher aux côtés des manifestants. D'après les échos qui vous viennent de Téhéran, est-ce que certains membres des forces de l'ordre ont des états d'âme et sont en train de rallier le mouvement, ou est-ce que c'est ultra minoritaire ?
Ce que me disent mes contacts sur place, c'est qu'il y a, c'est vrai, maintenant ça fait un mois que les manifestations durent, il y a un épuisement, il y a un essoufflement. Ils me disent voir la fatigue dans les yeux des forces de l'ordre, dans les yeux des miliciens Basidji qui chevauchent leur moto pour parcourir les villes. Il semblerait que la police, justement, ayant conscience de ça, ait décidé d'utiliser d'autres techniques. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de policières femmes, mais ces fameuses policières femmes qu'on avait l'habitude de voir, qui étaient drapées de noir des pieds à la tête, elles ont troqué leur chador noir maintenant contre des tenues plus souples, des manteaux cintrés, des espèces de cagoules sur la tête. Donc on sent aussi que de son côté, le régime essaye tant bien que mal de s'adapter à la situation par peur de perdre des membres des forces de répression. En revanche, il est très difficile aujourd'hui de parler d'une fissure possible, potentielle. Il faut savoir que ça a été une des grandes astuces et stratégies de l'ayatollah Khomeini en 79, qui a été de diversifier les différentes forces de répression. Vous n'avez pas seulement la police et l'armée en Iran, mais vous avez aussi des miliciens, vous avez les services de renseignement habillés en civil aux quatre coins des rues, et vous avez le corps des gardiens de la révolution, la garde prétorienne du régime, qui se mobilise, qui contrôle non seulement les frontières, mais qui est également en ce moment dans les rues à essayer de faire respecter le calme. Et du coup, pour l'instant, en effet, il est difficile de parler d'une fissure interne.
Vous êtes d'accord, Clément Terme ?
Oui, il y a des tensions, c'est sûr, mais la difficulté pour le régime, c'est face à ce millefeuille institutionnel, c'est d'être efficace, parce qu'il y a une superposition des champs de compétences. Donc d'abord, on a eu la police et l'Artèche, donc l'armée régulière qui ont été déployées, mais si la situation ne revient pas sous contrôle, ce sont les gardiens de la révolution qui prennent le relais. Donc cette pluralité des institutionnelles peut aussi, dans une phase de confrontation forte avec les manifestants, créer des problèmes de gestion, de management pour le régime. Donc on est dans une situation où le régime va devoir faire des choix. Donc, parce que comme je l'ai dit, la surenchère sécuritaire va entraîner l'aggravation des problèmes économiques, en plus de l'absence de liberté. Il faut bien voir que les deux sont complémentaires dans l'explication de la colère qui sévit actuellement parmi la majorité de la population iranienne. Et donc cet accroissement des mécontentements va poser des questions au système. Est-ce qu'il faut continuer cette surenchère sécuritaire ? Est-ce qu'il faut dialoguer vraiment ? Non pas le faux dialogue avec les, entre guillemets, modérés dont j'ai parlé précédemment. Et est-ce que ce nationalisme par le bas, qui est en fait une demande de priorité aux questions économiques et de délaisser les aspects idéologiques, c'est ça, tout simplement, ce nationalisme populaire qui existe aujourd'hui, qui émerge depuis les années 2000. Donc la fin de l'aventurisme de la République islamique au Liban, les interventions de la région, le soutien à des réseaux d'influence, par exemple en Amérique latine ou en Afrique, tout ça est très impopulaire. Et donc le régime est bloqué parce qu'il y a la question qui se pose à chaque fois qu'il y a des mouvements de répression brutaux en République islamique. Est-ce que ce réseau de miliciens qui est à la fois interne et externe va être mobilisé, notamment pour les milices chiites ou le Hezbollah libanais, pour réprimer à l'intérieur du pays ? Donc là, il y a beaucoup de rumeurs, etc. Mais on voit clairement qu'il y a une connexion entre la projection du réseau d'influence au niveau international, hein, parce que l'Afrique, l'Amérique latine sont concernées, et ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc le régime est dans une situation de blocage et il ne peut pas réformer. Donc des fissures pourraient se développer dans les prochaines semaines.
Clément Terme, l'Organisation pour la promotion de la vertu et la prévention du vice a appelé à ce qu'on cesse de considérer comme un crime le fait de ne pas porter un voile et qu'on amende simplement la loi pour que cela devienne une infraction. De son côté, le grand ayatollah Asadollah Bayat Zanjani a qualifié d'illégaux, irrationnels et illégitimes l'ensemble des comportements et des événements qui ont causé la mort de Mahsa Amini. Est-ce que ces déclarations montrent qu'il existe de fortes dissensions au sein même du camp des religieux cette fois ?
Il faut bien préciser que les religieux qui gouvernent en Iran sont minoritaires dans le clergé chiite qui est majoritairement pour la séparation du religieux et du politique. Donc la théorie du juriste théologien qui explique le fondement théorique de la République islamique est une théorie théologique minoritaire. Donc la majorité du clergé va soit rester silencieux, parce qu'il a besoin d'un compromis avec l'État qui est en place, parce qu'ils sont présents sur le territoire iranien, donc ils doivent respecter les lois de la République islamique, mais très peu vont soutenir ouvertement, si ce n'est le clergé officiel. Donc en fait, après, il faut distinguer dans ces déclarations ce qui relève des considérations tactiques, c'est-à-dire de ce faux dialogue, ce dialogue factice dont j'ai parlé, cette volonté de faire croire en fait qu'on prend en considération les aspirations populaires de la majorité de la population pour mieux les manipuler. Donc là, faudra voir dans les prochains mois, mais je ne pense pas que le régime puisse revenir sur le port obligatoire du voile ou sur entre guillemets ce qu'ils appellent la modestie vestimentaire, parce que cela fait partie de l'identité du régime. Donc je pense que le guide suprême et ceux qui gouvernent verraient une réforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette position de faiblesse, comme l'ouverture d'une boîte de Pandore qui entraînerait sa chute. Donc il faudrait qu'il y ait un changement de calcul au plus haut sommet de l'État, mais c'est vrai qu'il va y avoir, à mon avis, des fissures sur l'escalade, la violence d'État, c'est-à-dire dans quelle mesure la violence d'État peut assurer la survie de la République islamique. Donc les débats sont tactiques. L'objectif, c'est la survie du régime. Ça, déjà, c'est une question qui ne suscite pas l'adhésion de la majorité de la population aujourd'hui. Donc la solution est compliquée pour les élites politiques.
Azad Ekian, vous êtes d'accord avec Clément Terme, il n'y aura pas de recul du pouvoir sur la question du voile obligatoire?
Non, sur la question du voile obligatoire, si, mais la loi ne va pas changer. Moi, je pense que là où ils peuvent faire des concessions, c'est justement de dire qu'il y a à l'heure actuelle, au sein même du régime, beaucoup de critiques par rapport à la police des mœurs, parce que la façon dont la police des mœurs a traité les femmes, même avant l'assassinat de Mahsa Amini, il y avait aussi d'autres jeunes femmes et femmes qui étaient très maltraitées, battues à même la rue par la police.
On a vu sur Twitter un gardien de la révolution à la retraite demander la fermeture.
Il y a aussi des voix discordantes effectivement qui s'élèvent de plus en plus. Donc je pense qu'ils ne peuvent pas toucher à la loi qui rend obligatoire le port du voile, parce que c'est effectivement au fondement de ce régime, au fondement idéologique de ce régime, le voile. En revanche, ils peuvent ne pas renforcer le port du voile, comme ça a été le cas, d'ailleurs, on oublie souvent, avant, justement, sous les réformistes, il y avait aussi la police des mœurs, hein, qui était appelée autrement. La loi existait, mais n'était pas renforcée au point de battre les femmes qui le mal portaient. Donc ça, c'est surtout depuis l'arrivée au pouvoir de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi, hein, le nouveau président, et la talibanisation du pouvoir iranien, que les lois qui existaient déjà sont renforcées contre les femmes, mais aussi contre les hommes, contre les jeunes hommes, par exemple, qui ne respecteraient pas les préceptes islamique. Et donc, c'est ça qui a créé énormément de violence, justement, d'État au sein de la société. Violence qui existait et s'exerçait déjà, mais surtout sur les opposants, sur aspects politiques, et qui s'exerce aujourd'hui sur même les écolières qui ne respecteraient pas ces préceptes. Et c'est ça qui a mis toute la population, une des pans entiers de la population, en colère, si vous voulez. Donc, ils peuvent faire des concessions, mais sur certains plans, à condition, bien évidemment, que le mouvement migrants continue, que la pression sociale continue et que il n'est pas d'autre choix que voilà, que de dire bon, on fait quelques concessions. Les débats ont déjà commencé, on les voit, et Ayatollah Bayat Zanjani, c'est un ayatollah réformiste qui a toujours contesté l'islam officiel au pouvoir, si vous voulez, et donc sa voix porte, parce que en Iran, effectivement, non seulement, comme disait Clément, la majorité des clercs sont contre l'islam officiel ou le jurisconsulte, mais en même temps, il y a des ayatollahs qui s'opposent aux politiques de talibanisation du régime et sont entendus parce qu'ils ont leurs propres disciples. Donc, voilà, il y a beaucoup de dissensions au sein du clergé. Il y a de plus en plus aussi de dissensions, on le constate, surtout quand les forces de coercition sont envoyées dans les quartiers populaires de mater les manifestants, de les réprimer. Mais pour l'instant, je ne vois pas non plus de réel changement de cap de la part des forces armées, qu'il s'agisse de l'armée régulière ou des gardiens de la révolution ou encore moins des Bassidj.
Delphine Minoui, est-ce qu'un mouvement de contestation sans leader peut faire tomber le régime ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un mouvement horizontal, sans leader attitré, qui est largement désorganisé. Ça fait à la fois sa force et sa faiblesse, je dirais. Parce que finalement, il y a quand même une certaine forme d'organisation à l'échelon local. On parlait tout à l'heure des syndicats, on parlait des associations. Ce sont des gens qui ont leur propre relais dans les villes, dans les villages, dans les entreprises, dans les institutions. Alors le malheur de l'Iran aujourd'hui, c'est qu'évidemment, comme dit tout le monde, aujourd'hui la grande prison d'Evin à Téhéran, c'est devenu l'université d'Evin. C'est là où se trouvent les plus grands opposants et les meilleurs dirigeants potentiel de l'Iran de demain. Donc on assiste à cette révolte au jour le jour. Les Iraniens de l'intérieur nous disent « faites-nous confiance ». On préfère justement ne pas faire sortir une image précise d'un leader pour éviter à nouveau qu'il soit brimé par le pouvoir. Donnez-nous du temps. En tout cas, ce qu'on entend beaucoup de l'intérieur, c'est cette volonté que leur révolte ne soit pas récupérée de l'extérieur, ne soit pas récupérée par les opposants à l'étranger qui n'ont aucune visibilité sur la réalité de l'Iran d'aujourd'hui.
Clément Terme, brièvement, de quel œil les pays de la région voient-ils les événements de ces dernières semaines en Iran ?
Ça dépend leur relation avec la République islamique. On voit par exemple le Qatar est extrêmement prudent, Al Jazeera couvre très peu, alors que les rivaux de l'Iran, notamment Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, au niveau médiatique, vont relayer les revendications des manifestants. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a une connexion entre ce qui se passe, la répression à l'intérieur et la projection de l'influence iranienne à l'extérieur. Donc le modèle, si vous voulez, de la République islamique de répression a aussi à certains moments servi à réprimer les Irakiens et les Libanais. Donc on est dans cette situation finalement où on va retrouver les soutiens de la République islamique qui vont relayer la propagande du régime, notamment le Hezbollah qui parle d'un incident par rapport au décès tragique de Mahsa Amini, et par contre les opposants qui vont soutenir le mouvement populaire à l'intérieur de l'Iran. Mais c'est un cas particulier l'Iran, donc il ne faut pas appliquer la grille de lecture des manifestations ou de la transformation sociale de l'Iran dans le cadre de la République islamique. Cette situation-là n'est pas transposable à d'autres pays de la région.
Azadeh Kian, un mot pour conclure. Êtes-vous optimiste sur la suite de ce mouvement de contestation ?
Écoutez, malgré la répression, je suis optimiste parce que des pans entiers de la population s'est impliqué dans cette révolution en cours qui a des revendications d'ordre politique, économique, social et culturel. Et si vous regardez les slogans, les gens demandent la dignité, le respect, la liberté et aussi la séparation entre la religion et l'État. C'est ensemble contre le régime islamique et je pense qu'il faut les soutenir dans leur mouvement. Je pense que ça va aboutir à moyen terme parce que cette jeune génération qui est aujourd'hui dans la rue ne se laissera plus faire.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à Géopolitique. Azadeh Kian, vous avez publié « Femmes et pouvoir en islam » aux éditions Michalon. Delphine Minoui, je cite ce très beau livre « Je vous écris » de Téhéran, paru au Seuil en 2015. Clément Terme, vous étiez avec nous en ligne de Montpellier. Je renvoie nos auditeurs au livre collectif que vous avez dirigé « L'Iran et ses rivaux entre nation et révolution » paru en 2020 aux éditions Passé Composé. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Cécile Lavolo qui m'a aidée à la préparer. À bientôt et portez-vous bien.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.